pendule de présence, très exactement. Soyez les bienvenus dans cette heure que nous allons passer ensemble. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Le présence midi qui va débuter dans une poignée de minutes avec François-Xavier Brunet. Il s'agit du directeur de la Chambre de commerce et d'industrie des Hautes-Pyrénées. Il sera au micro de Benoît Guillard. Vous l'avez compris, c'est l'invité de la chronique verte d'aujourd'hui. Nous aurons également les informations et puis nous partirons à la découverte d'un territoire des Hautes-Pyrénées, la Barousse, et plus précisément le village de Lourbarousse, même on peut dire une petite ville, puisque Anne-Rose est allée à la rencontre du premier magistrat de cette ville. Et enfin, nous aurons la chronique littéraire de Catherine Albrecht qui nous fera découvrir aujourd'hui Pierre Louty sur des écrits sur notre belle région. Voilà le sujet de cette heure que nous allons passer ensemble pour ce présence midi. Un présence midi que je vous propose de débuter tout d'abord un petit peu en musique avec Claude Nougaro.
Nobody knows the trouble I've seen. Nobody knows but Jesus. Nobody knows the trouble I've seen. Toujours il chantait ça. Pierre mi-close, tout seul en sourdine. Nobody knows but Jesus. Cherchant une cause humaine ou divine, il chantait tout. Ça. Je cherche un ciel, j'ai mal au sein. Oh yeah, my lord, disait-il, mi figue, mi raisin. Oh yeah, my lord, en attendant, je me fais des ailes. Oh yeah, my lord. Artificiel. Oh yeah, my lord. Nobody knows the trouble I've seen. Dans son nuage comme un os, cherchant une cause humaine. Il chantait toujours ça. Hier, il est mort, ras-le-bol ou névrose d'une overdose assassine. Il souriait, les paupières bien closes, les mains sur sa poitrine.
Présence à Cahors, 92.5.
Allez, direction les Hautes-Pyrénées avec la chronique verte de Benoît Guillard.
La chronique verte, Benoît Guillard.
Chers auditeurs de Radio Présence, bonjour. Nous nous retrouvons cette semaine à nouveau pour la chronique verte de Benoît Guillard. Aujourd'hui, j'ai fait le choix de me rendre à Tarbes. Plus exactement, je suis dans les locaux de la Chambre de commerce et d'industrie de Tarbes-Pyrénées et j'ai l'honneur d'être aux côtés de son président, François-Xavier Brunet. Et si j'ai fait le choix d'aller à sa rencontre, c'est que au-delà de sa mission importante de président de la Chambre de commerce et d'industrie, il a aussi un métier. Et dans son métier, il est assureur et dans ses compétences et ses expertises, il a une compétence particulière sur le climat et les risques systémiques. Et puis enfin aussi, comme il est multicarte, j'ai aussi vu qu'il était président de l'OGEC, de l'Institut Jeanne d'Arc. Et donc on évoquera aussi ses engagements en tant que chrétien tout au long de sa carrière, sa riche carrière sur ce territoire. Cher président, ou je ne sais pas comment vous appelez, cher François-Xavier Brunet, d'abord merci d'avoir accepté de me rencontrer. Je vais vous laisser peut-être deux mots de présentation.
Oui, on va éviter la titulature qui n'est jamais souhaitable et je suis vraiment pas bon pour le protocole. Donc, je suis président de la Chambre de commerce et d'industrie depuis 2010, agent général d'assurance depuis 2008, fin 2008, début 2009. Et depuis trois ans, comme vous l'avez dit, président de l'OGEC de l'institution Jeanne d'Arc Saint-Joseph ici à Tarbes. Donc, beaucoup d'engagement après avoir même eu près de 19 ans de vie municipale ici à Tarbes.
Cher président, on va commencer par la CCI tout simplement et très rapidement puisque bon, la CCI elle a quand même pour mission importante d'accompagner les entreprises sur ce territoire. Et puisque dans cette chronique verte, on parle de transition écologique, bon, j'imagine qu'il est mené des actions pour accompagner les entreprises dans ce domaine, j'imagine.
Oui, alors les chambres de commerce et d'industrie et celles-ci dans les Hautes-Pyrénées ne dérogent pas à la règle, sont des établissements publics de l'État. Donc des structures publiques sous la tutelle du ministère de l'économie et des finances et avec les moyens qui nous sont donnés et avec ce que nous pouvons compléter par nos ressources propres, nous devons exercer un certain nombre de missions qui sont des missions qui sont fixées par la loi et par le contrat avec l'État en tant qu'opérateur de l'État. Et parmi ces missions, il y a l'accompagnement des entreprises dans les différentes transitions auxquelles elles sont confrontées, que ce soit sur le plan énergétique, sur le plan climatique, mais on pourrait aussi rajouter les transitions numériques qui sont très fortes, les transitions sociales, les nouvelles formes de travail, etc. Donc par rapport au sujet de préoccupation et de prédilection de votre chronique, cher Benoît Guillard, les transitions environnementales, écologiques, énergétiques sont un des sujets sur lesquels nos collaboratrices et collaborateurs interviennent. On a notamment ici une collaboratrice qui est plus particulièrement chargée d'accompagner les entreprises sur un certain nombre de problématiques, parfois en lien avec d'autres opérateurs de l'État comme l'ADEME, dans une coordination régionale avec l'ensemble des chambres de commerce et d'industrie d'Occitanie.
Oui, donc bien évidemment que cette préoccupation est mise en avant. Ce qui va nous intéresser plus, c'est aussi votre expertise, puisque on ne l'ignore pas, vous êtes aussi assureur et vous avez une compétence nationale, on va dire, même sur le climat et le risque systémique. Et donc c'est intéressant d'avoir aussi votre regard, justement, en tant qu'assureur, sur tout ce qui se joue par rapport à ces dérèglements climatiques et tout ce que subit notre planète actuellement et les risques que nous-mêmes, en tant qu'humains, nous devons assumer.
Oui, alors, une compétence nationale, non. Disons que pendant trois ans, j'ai siégé au titre des chambres de commerce et d'industrie au sein du Conseil économique, social et environnemental à Paris. Et au cours de ce mandat de trois ans, j'y suis resté trois ans, j'ai été le co-rapporteur d'un avis qui a été adopté par le CESE sur les conséquences des risques systémiques sur le système assurantiel français. Il est évident que mon métier, mon expérience d'agent général d'assurance en apporte la démonstration tous les jours, mais il suffit de regarder la télévision et d'écouter la radio, de lire les journaux pour mesurer combien certains événements climatiques qui paraissaient décennaux, centennaux ou que sais-je encore sont aujourd'hui quasi quotidiens ou quasi hebdomadaires. Et que, comme disait l'ancien grand patron d'une grande compagnie d'assurance, on ne sait pas assurer un plus 4 degrés, un climat avec plus 4 degrés. Donc aujourd'hui, on est entre 1 plus 1,5 et plus 2 degrés. Donc on a des conséquences à la fois sur l'assurabilité des biens, l'assurabilité de certaines zones, et des conséquences également sur les tarifs d'assurance, puisque le poids proportionnel des catastrophes climatiques est de plus en plus fort dans la sinistralité des compagnies compagnies d'assurance. Et puis, un certain nombre de choses qui se posent, notamment ces derniers jours en Bretagne, où on a pu voir qu'un certain nombre de lotissements, de zones d'activité, d'hypermarchés avaient été édifiés sur des zones qui s'avèrent être, ou dont on a fait semblant d'ignorer qu'elles étaient inondables. La question va se poser de la reconstruction à l'identique sur les mêmes zones. Je crois que on va avoir des mutations qui vont être très importantes. D'ailleurs, la plupart des assurés ont pu constater que leurs primes d'assurance ont augmenté au 1er janvier, tout simplement parce que, par exemple, sur les assurances d'habitation, le taux de la taxe catastrophe naturelle qui finance le fonds catastrophe naturelle est passé de 12 à 20%. Il faut bien financer un dispositif. Du reste, nous sommes en France un pays assez exemplaire et assez pilote en la matière, puisque depuis 1982, nous bénéficions d'un régime catastrophe naturelle qui est extrêmement efficace, mais qui atteint ses limites devant l'ampleur et la multiplicité des événements climatiques.
Tout à fait, avec votre regard, et on va se tourner un peu plus sur notre territoire, sur ce beau département des Hautes-Pyrénées. Quel est votre regard justement sur ces risques systémiques dans les Hautes-Pyrénées actuellement ?
Les Hautes-Pyrénées, j'allais dire, sont confrontées à des risques liés au changement climatique qui sont importants, notamment dans les zones de montagne avec l'érosion. On vient de le voir d'ailleurs dans la vallée de la Tarentaise chez nos collègues des Alpes, mais on sait par exemple que l'accès Gorge de Luz doit être sécurisé, donc bon, ça pose des questions de viabilité, d'accessibilité. On a dans le nord du département des zones qui sont très concernées par les sols argileux, et donc ce qu'on appelle alors la fissuration, les risques sécheresse, dit familièrement, mais qu'en techniquement on appelle le retrait-gonflement des argiles. C'est-à-dire que vous savez que l'argile a pour caractéristique physique de se dilater sous l'effet de la pluie, de se rétracter sous l'effet de la chaleur. Donc comme vous avez des distorsions, et donc ça vient attaquer les fondations des bâtiments, et donc le Val d'Adour est particulièrement concerné par ce risque.
Effectivement, tout le monde est concerné, en fait, et c'est une prise en compte globale qu'il s'agit de faire, et de peut-être réimaginer à la fois l'habitat et puis les zones constructibles pour le futur, inévitablement. Hein.
Oui, et intégrer dans nos démarches la notion de prévention. Ça, c'est extrêmement important parce qu'on ne pourra pas éternellement financer un système d'indemnisation fondé exclusivement sur le curatif. Donc il va falloir aller vers des démarches de prévention qui permettront de maintenir le bâti, de maintenir les activités et d'amoindrir les conséquences sur nos concitoyens.
Cher François-Xavier, vous êtes aussi président de l'OGEC, de l'Institut bien connu à Tarbes, l'Institut Jeanne d'Arc. Donc peut-être expliquer à nos auditeurs très rapidement ce qu'est un OGEC, ce qu'est le rôle d'un président d'OGEC, et puis nous verser un petit peu votre regard, vous, sur justement l'enseignement catholique sur ce territoire, et sur Tarbes en particulier.
Moi, je suis natif des Hautes-Pyrénées. Je suis extrêmement attaché à l'enseignement catholique, puisque j'y ai usé mes fonds de culotte et même mes pantalons longs, puisque j'ai été tour à tour élève à l'école Saint-Joseph de Cantaos et au Collège et chez les Pères de Notre-Dame de Garaison. Et j'ai mes enfants qui ont été ou qui sont scolarisés à Jeanne d'Arc, à Tarbes, puisque je vis depuis une trentaine d'années à Tarbes. L'enseignement catholique dans les Hautes-Pyrénées, mais comme ailleurs, est géré par ce qu'on appelle des OGEC, les organismes de gestion de l'enseignement catholique, qui sont des structures de nature associative et qui assurent, pour faire simple, le fonctionnement matériel et administratif des établissements. Ils le font soit sous l'égide d'une congrégation, si l'établissement est sous la tutelle d'une congrégation, soit directement sous la tutelle du diocèse et de l'évêque du diocèse, ce qui est le cas de Jeanne d'Arc Saint-Joseph, puisque nous n'avons pas de congrégation et que nous sommes un établissement diocésain, un établissement de 1200 élèves, qui va de la maternelle jusqu'à la terminale, qui est implanté sur deux sites, donc Jeanne d'Arc, rue Massé à Tarbes, et l'école Saint-Joseph, rue de Kronstadt, également à Tarbes. Rue de Kronstadt, c'est juste en face du 1er HP, du régiment du 1er HP. Donc c'est un très bel établissement qui a une tradition, une notoriété ici à Tarbes, qui est un établissement extrêmement important. Et je crois que dans l'évolution de la société, dans le paysage éducatif, l'enseignement catholique a un rôle et un positionnement plus que jamais à tenir. Moi, quand je fais des réunions avec ou à la rentrée avec les enseignants ou avec les parents d'élèves, je leur dis toujours, non, on n'est pas dans un établissement privé. On est dans un établissement d'enseignement catholique. Donc, lorsque l'on choisit de confier ses enfants à l'établissement d'enseignement catholique, on choisit aussi d'adhérer à un système de valeurs. On est une école ouverte sur la vie et la société, donc on ne demande pas aux parents de faire un acte de foi et de signer un acte de foi. Mais en tous les cas, on les invite à partager un système de valeurs qui sont les valeurs chrétiennes, qui sont des valeurs d'ouverture à la vie et au monde, mais qui sont des valeurs qui sont extrêmement fortes et que, ben, bénévolement, les membres de l'OGEC qui font partie de l'OGEC avec moi, essayons de faire vivre en apportant les efforts nécessaires pour faire tourner des établissements qui sont quand même avec des moyens, somme toute, limités, même si les parents versent une contribution, mais elle ne permet pas tout. Donc c'est un exercice d'équilibriste, mais un exercice passionnant.
Alors, puisqu'on en est là et qu'on va arriver vers la fin de cette chronique, j'avais envie de vous poser une question un peu plus personnelle, puisque vous êtes donc chrétien aussi, hein, bien sûr, et que vous êtes engagé à la fois dans la société civile et puis dans l'éducation, et à côté des enseignants et des enfants et des parents d'élèves. Et donc, un petit peu vous demander, en tant que chrétien engagé, vos espérances pour demain, notamment pour les jeunes en particulier.
Déjà, dans un premier temps, je dirais que je regrette que nous soyons arrivés dans un monde, cette année 2025, mais ça fait quelques années que cela dure, où les seuls qui n'osent pas s'affirmer comme tels, ce sont les chrétiens, et les catholiques en particulier, puisqu'il s'agit là, nous concernant, des catholiques. Je pense que ça n'est pas porter atteinte à la laïcité que de se revendiquer tel que l'on est. Je pense que d'ailleurs on est beaucoup plus tolérant à l'égard des autres quand on sait qu'on est soi-même, et en tous les cas qu'on ose l'affirmer. Donc moi, je sans pour autant faire du prosélytisme, je n'ai jamais dissimulé ma foi chrétienne et mon engagement en ce sens, même si je suis atteint par le phénomène de sécularisation et que, bon, je ne suis pas le paroissien le plus assidu à la messe dominicale, malheureusement. Mais en tous les cas, j'ai ces convictions et cette foi chevillée au corps. Et je pense qu'il faut la porter haut. Et c'est aussi, me semble-t-il, sans faire abusivement de politique dans cette chronique, je crois que c'est aussi un enjeu de civilisation. Et nous ne pouvons pas comprendre le monde dans lequel nous vivons, la civilisation européenne et française en particulier, qui est au croisement des civilisations gréco-romaines et judéo-chrétiennes, si on ne s'affirme pas, on ne peut pas comprendre la musique classique, on ne peut pas comprendre l'opéra, on ne peut pas comprendre la peinture, on ne peut pas comprendre la littérature, on ne peut rien comprendre, on ne peut même pas comprendre l'urbanisme de nos villes et de nos villages, organisés autour de nos clochers. Donc il faut se revendiquer comme tel. Donc je suis heureux de le faire sur les ondes de Radio Présence. Du reste, lorsque j'étais étudiant à Sciences Po à Toulouse, j'étais à votre place, cher Benoît, de l'autre côté du micro. Donc vous me rappelez mes jeunes années. Quant à mes espérances à l'égard de la jeunesse, moi je suis très inquiet. On a parlé des risques climatiques. Moi je suis, j'allais dire, presque beaucoup plus inquiet à l'égard du risque de guerre. Je suis comme vous, certainement, peut-être, je dirais pas féru d'histoire parce que ça serait prétentieux, mais je suis amateur d'histoire. Et j'ai parfois l'impression de vivre au quotidien les lignes d'un chapitre qui pourrait, d'ici quelques décennies, s'appeler la montée à la guerre. Donc j'ai foi, certes, en Dieu, mais également en l'homme. J'espère que tout ceci se calmera, s'apaisera. Mais moi, je suis très inquiet pour les générations qui viennent, de ce point de vue-là. L'autre espérance que j'ai, c'est qu'on réussisse à construire un modèle de société qui soit moins anxiogène. Moi, je suis l'heureux papa de deux enfants, un étudiant de 21 ans, une collégienne de 14 ans. Et je vois autour d'eux, alors Dieu merci, ils vont bien, mais en tous les cas, je le crois. Je vois quand même monter dans cette génération-là des problèmes sinon de santé mentale, en tous les cas d'équilibre et de confiance psychologique. Et ça m'inquiète beaucoup. Et la boucle, on va boucler la boucle de ma réponse, excusez-moi si elle est un peu longue, mais je crois nécessaire de revenir à la revendication, au moins l'affirmation de nos valeurs et de notre foi, parce que cette génération-là est en recherche de sens et de spiritualité, en recherche de valeurs, Et comme nous autres chrétiens, nous avons un peu démissionné, ils vont se réfugier vers d'autres horizons. Et cela m'inquiète un petit peu, quand je parlais d'enjeux de civilisation.
Merci beaucoup, cher François-Xavier Brunet. Merci pour ce beau témoignage. Merci de m'avoir accueilli et donc d'avoir accepté de vous adresser aussi aux auditeurs de Radio Présence. Et puis merci pour votre engagement et votre témoignage de chrétien. Et puis donc, au plaisir de vous retrouver. Au revoir.
Avec plaisir, au revoir.
La chronique verte, Benoît Guillard.
Que nous retrouverons dès la semaine prochaine. Ceci était bien entendu une rediffusion, puisque nous sommes en été, si tout le monde a droit au repos. On se retrouve dans quelques instants, juste après Eric Clapton. Avec B.B. King d'ailleurs.
I'm gonna love you like nobody's loved you. Come rain or come shine. High as a mountain and deep as a river. Come rain or come shine.
Well, I guess when you met me, that it was just one of those things. But don't you ever bet me, 'cause I'm gonna be true if you let me.
Oh, you're gonna love me like nobody's loved me. Come rain or come shine. Happy together, unhappy together. Won't that be fine?
In or we're out of the mud. I'm with you always. I'm with you rain or
King en duo avec Eric Clapton pour cette petite balade.
Présence à Catus 92.5.
Et il est 12h25 à la pendule de présence. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent en cette mi-journée. Bon appétit si vous êtes à table. Nous faisons un point sur l'actualité de ce jour.
Bonjour à tous. À Toulouse, des habitants de la rue Jules Amiot dénoncent des verbalisations à répétition pour stationnement sur un trottoir. En 2 ans, le montant cumulé des amendes dépasserait les 300 000 euros. Depuis un réaménagement ayant supprimé plusieurs places, certains n'ont plus d'alternative pour se garer. La mairie rappelle l'interdiction formelle de stationner sur le trottoir, malgré le retrait temporaire de Potelet pour des travaux. Les habitants, eux, demandent des solutions concrètes. Depuis quelques jours, une dizaine de vols à la roulotte ont été signalés à Foix, Montgaillard et Pamiers. La police de l'Ariège alerte les habitants et recommande plusieurs précautions. De rien laisser visible dans les véhicules, fermer les portes et fenêtres et éviter de laisser des documents personnels ou supports GPS. Il est aussi conseillé de se garer dans des endroits éclairés et fréquentés. En cas de vol ou tentative, il faut contacter le 17 sans toucher au lieu. Bien que les travaux de la nouvelle portion de la RN21 au sud de Villeneuve-sur-Lot soient terminée, la voie rapide n'est pas encore ouverte à la circulation. Cette section de plus de 2 km est prête à accueillir les véhicules, mais plusieurs aménagements annexes restent à finaliser. Ces derniers équipements sont essentiels avant la mise en service. L'ouverture officielle est annoncée pour septembre ou octobre, une fois ces derniers détails achevés. Et c'est confirmé, l'Union européenne valide enfin le projet Montésic 2 en Aveyron. EDF va investir 500 millions d'euros pour creuser une seconde usine dans la montagne sur le site hydroélectrique existant. La puissance de la station passera de 920 à 1400 mégawatts, faisant de Montésic un acteur clé du stockage d'électricité en France. Jusqu'à 400 emplois seront mobilisés au plus fort du chantier. À Lourdes, une équipe de techniciens veille chaque jour à retransmettre les célébrations religieuses du sanctuaire dans le monde entier. Cachés derrière les écrans, ils captent messes, processions et gestes d'émotion pour les diffuser sur les chaînes officielles suivies par des millions de fidèles. Présents de 8h à 22h30, ils jonglent entre enjeux spirituels et contraintes techniques. Leur mission, transmettre la foi sans jamais être intrusif. Grâce à eux, Lourdes règne bien au-delà des Hautes-Pyrénées. Et cette année, Cultura et les Blues Roses 82 ont renouvelé leur partenariat en proposant aux résidents des EHPAD de Montauban des ateliers créatifs. Accompagnés par une animatrice de Cultura, ils ont personnalisé des coffrets en bois, partageant ainsi un moment convivial et créatif. Les Blues Roses recherchent toujours de nouveaux bénévoles pour la rentrée, avec formation et accompagnement assuré.
Et merci à Carla pour ces informations qu'elle a bien voulu vouloir assurer durant toute cette semaine. Dans quelques instants, nous allons partir en Barousse, un joli coin du département des Hautes-Pyrénées que nous proposera de découvrir Anne-Rose Jankovic juste après cette très belle chanson de Laurent Voulzy.
Jeanne, enfin je vais vous dire combien je soupire. Vous êtes si loin, si loin d'ici. Des siècles nous séparent et mon cœur s'égare. Un amour subtil l'a pris et je chante ma peine loin de celle que j'aime. L'âme pleine de mélancolie et je chante ma peine. Celle que j'aime, l'âme pleine de mélancolie. Charme, j'aurais aimé vous plaire et je désespère de venir un soir à vos genoux. Vous n'êtes qu'une image perdue dans les âges et moi dans l'amour de vous. Et je chante ma peine loin de celle que j'aime, l'âme pleine de mélancolie. Et je chante ma peine loin de celle que j'aime, l'âme pleine de mélancolie. Mmh.
pour cette chanson.
Présence à Bagnères-de-Luchon, 94 FM.
À l'occasion des différentes visites pastorales de l'évêque du diocèse de Tarbes-et-Lourdes, Mgr Jean-Marc Mica, Anne-Rose Jankovic est allée également à la rencontre des élus du territoire des Hautes-Pyrénées. Aujourd'hui, elle nous propose de découvrir cette très belle partie du département des Hautes-Pyrénées, en l'occurrence la Barousse, direction la ville de Lourdes-Barousse, en compagnie de son maire.
Bonjour Jean-Michel Palao.
Bonjour.
Vous êtes le maire de Lourdes-Barousse. Nous allons découvrir la Barousse et notamment ce village de Lourdes-Barousse. Est-ce que vous pouvez nous le présenter, peut-être nous dire le nombre d'habitants et puis mentionner évidemment la particularité d'être vraiment aux portes du Comminges.
Voilà. Donc le Lourdes-Barousse se situe en limite des Hautes-Pyrénées et de la Haute-Garonne. C'est une commune de 758 habitants au dernier recensement. Et là, le nouveau recensement de début 2024, début 2024, fait ressortir donc une augmentation assez sensible du nombre d'habitants, puisqu'on est, on passerait à 713 habitants. Donc de 658 à 713. Donc ça fait un gain de 60 habitants, et dont nous, on est très heureux d'avoir ces résultats.
Qui sont les habitants ? Est-ce que ce sont des personnes qui ont des familles, qui ont toujours été là, de nouveaux arrivants, des jeunes ?
Alors,
J'ai vu qu'il y avait une école maternelle, primaire, même un collège, je crois. Donc ça veut dire qu'il y a des familles.
Oui. Alors, Lourdes-Barousse se situe à l'entrée du canton de Barousse, hein. Et donc c'est un centre-bourg. D'ailleurs, on est inscrit dans les dispositifs centre-bourg de la région et également dans le dispositif Petite Ville de demain.
Donc, ce dispositif ?
Ce sont des dispositifs qui permettent donc, c'est l'État et les collectivités, les grosses collectivités qui misent sur certaines communes quant à leur devenir, c'est-à-dire que ils ont ressenti qu'à Lourdes-Barousse il y avait peut-être un potentiel de développement et puisque Lourdes-Barousse 758 habitants, donc maintenant 713 habitants, on a donc un supermarché, on a des écoles, on a le collège, on a un centre de santé, donc on est bien doté en matière de services et en matière de commerce, quoi. Dans les commerces, évidemment, auparavant, il y en avait davantage, mais ce qu'on peut dire, c'est que nous, on a maintenu quand même certains commerces de proximité et indispensables donc à la vie locale.
Pardon, mais je vous coupe sur ce point-là. Mais comment vous avez fait justement pour maintenir ce niveau de service de proximité ? Parce qu'on entend tellement de communes qui galèrent, hein, pour dire les choses clairement là-dessus. C'est quoi le secret de la réussite ? C'est dû à quoi ?
Eh bien, on a fait un constat il y a quelques temps de ça. Enfin, lors du premier mandat, on voyait que notre population petit à petit s'amenuisait. Donc on a réfléchi et on a mis en place donc un lotissement communal de 27 lots déjà, donc pour essayer d'inverser la pente un peu au niveau de la population. Et donc effectivement, donc on en a les résultats. Et puis également, on a investi dans la commune. J'ai autour de moi une équipe qui va de l'avant et avec des projets qu'on a réalisés. Donc en 2021, on a restructuré l'école communale et le primaire. Cette école, donc, auparavant, prenait l'eau. Quand il y avait du vent, le toit avait tendance un petit peu à se lever. Donc, il y avait quelques petits soucis. Donc, on est reparti avec à l'époque, le préfet Rodrigue Furcy. On est parti sur un projet de 2 millions d'euros et on a refait l'école. Par rapport à ça, également, on a engagé également des projets. On a racheté, mettons, un terrain, la maison Cachia, sur lequel donc on a des projets d'avenir. Également, on a mené pas mal de d'actions et d'opérations qui permettent qui ont permis donc de raccrocher, de faire revenir un petit peu la population à Lourdes-Barousse.
Ça veut dire qu'avec tous ces services-là, à la fois les personnes vieillissantes peuvent rester plus longtemps chez elles, et puis les familles sont plus encouragées à s'installer ou à rester.
Oui, donc alors en fait, au niveau des services, on a à disposition donc un centre de santé, avec des médecins, avec toute une série de... avec des paramédicaux, des infirmiers. On a également une maison de retraite, un EHPAD. Voilà, donc on a tous... voilà. Et dernièrement, donc, on s'est recentré quand même un petit peu. On s'est dit, donc, il faut revenir vers les jeunes un petit peu. Donc, on va bientôt inaugurer le City Stade à Lourdes-Barousse. Et donc pas mal d'actions quoi, en direction un petit peu de toutes les générations, et pour essayer d'amener Lourdes-Barousse à, disons, de retrouver Lourdes-Barousse avec son niveau de population qui était dans le passé aux environs de 800 habitants quoi. Donc voilà.
Alors qui dit service dit aussi du coup du travail, de l'emploi, mais est-ce qu'on peut un petit peu évoquer ce point-là, le secteur économique, il s'appuie sur quoi? Quand je me suis un petit peu promenée là avant d'arriver à la mairie de Lourdes-Barousse, les gens m'ont dit, plusieurs personnes m'ont dit, mais il y a deux choses importantes ici en Barousse, c'est le fromage et l'eau.
Alors là, c'est deux symboliques importantes de la Barousse, mais
de symboliques, donc c'est pas forcément les piliers de la vie économique.
Non, je pense pas. Mais enfin bon, c'est vrai que ça y contribue. Non, par contre, l'avantage de Lourdes-Barousse, c'est qu'on est situé pas loin de l'autoroute, on n'est pas loin de gros centres comme donc Saint-Gaudens, un peu plus loin donc Toulouse. Donc on a une population qui va travailler dans ces centres-là. Montrégeau, Saint-Gaudens, Toulouse, voilà. Donc on a une population à ce niveau-là. Bon, après, il ne faut pas se le cacher. Ici, on a pas mal aussi de retraités. On a donc le troisième âge, comme on dit. Et voilà. Après, qu'est-ce qu'on a comme industrie? Ben, on a pas mal des petits commerces aussi, effectivement, comme le Carrefour Contact, ou derrière, donc il y a à peu près une quinzaine d'employés. On a aussi la maison de retraite avec pas mal d'employés aussi. On a tout ce secteur-là qui a mis en place donc des emplois.
Vous évoquez Toulouse, c'est vrai, on est là à une heure de Toulouse et un peu moins d'une heure de Tarbes. Hein. Donc ça, c'est quand même, ça doit jouer aussi.
Alors, donc oui, alors on a ce phénomène-là, donc on a toutes les commodités pour aller sur Toulouse, Tarbes, donc avec l'autoroute. Et là, on a le train qui revient.
Alors racontez-nous ça, le train revient.
Oui, voilà, donc c'était en 2014. On a vu la fermeture de la ligne SNCF Montrégeau-Luchon. Et grâce à la volonté de notre présidente de région, Carole Delga, en 2016, le projet est reparti sur la réactivation de cette ligne-là. Donc les travaux sont en cours, ils sont bien avancés. Et je pense que les premières liaisons vont se faire dès le mois de mai ou juin 2025.
Qu'est-ce qu'elle va changer pour vous, cette ligne ?
La ligne par elle-même, faut pas croire, mais ça va pas amener un chamboulement terrible. C'est aux élus, c'est à la population à s'emparer de cet outil et d'en faire donc un élément essentiel au développement économique, ou à la pratique de tous les jours.
Oui, derrière, il y a aussi une question d'écologie.
Oui, tout à fait. Donc, puisque, en fait, cette ligne, pour l'instant, ça va démarrer sur des locomotives diesel. Mais ce qui est prévu, in fine, c'est que ça soit donc ce soit des tractions par le biais de l'hydrogène.
Ça sera donc une innovation aussi derrière. Vous allez être un centre un peu innovateur.
Ouais, ce seront donc des trains, des locomotives à hydrogène, oui, qui seront mis en place.
Voilà. Quel est l'enthousiasme des habitants là du coin? pour, vis-à-vis de cette ligne ?
Alors au départ, c'était un petit peu le scepticisme, parce qu'on disait, oui, le train, ouais. Dans le passé, il n'y avait pas trop de monde. Mais maintenant, donc, avec ce qui est prévu, c'est-à-dire le nombre de trajets, il est prévu 6 à 7 navettes par jour. Donc c'est intéressant. Et puis il voyait les travaux, on sent qu'il y a donc une dynamique qui se crée, et un certain optimiste.
Donc ça veut dire cette ligne, elle pourra être empruntée par les gens qui iront au travail, par les jeunes qui iront à l'école, enfin par toutes ces personnes-là, le matin, le soir.
Oui, voilà. Donc c'est le but, c'est ça, quoi, c'est de recréer du lien dans la vallée, de faire revivre un petit peu cette ligne et de faire revivre les villes qui sont attachées, et notamment donc en bout de ligne, il y aura donc Luchon, Bagnères de Luchon.
Alors ça, bon, on pourra en parler longtemps, mais du coup, c'est vraiment cette réflexion aussi sur le lien avec le Comminges et puis la Haute-Garonne. Enfin, la Barousse est vraiment un territoire finalement très authentique, mais à la fois tourné vers d'autres, alors que ce soit les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne, le Comminges. Vous êtes un petit peu multi-identité tout en ayant un caractère bien, bien à vous.
Oui, donc effectivement, donc l'Ourbarousse et la Barousse, on est situé donc dans le Comminges. Oui. Donc, en limite de la Haute-Garonne, des Hautes-Pyrénées, et pas loin de villes, enfin, pour nous qui sont importantes pour nous, c'est-à-dire donc Saint-Martin-de-Comminges, avec son côté historique, avec tout son passé, et également donc Barbazan, qui à l'époque avait les termes. Donc l'Ourbarousse, on a une vieille affiche là. Où donc cette affiche représente Lourdes, Barbazan, Saint-Martin-de-Comminges. Donc les anciens avaient déjà donc ce lien, et nous on essaye de le faire perdurer.
Voilà. Et votre cœur à vous, il est vraiment du côté aussi de ce côté-là.
Mais c'est-à-dire que effectivement, dans le passé, lorsqu'on allait faire une carte grise à Tarbes et qu'on disait qu'on était de l'Ourbarousse, les gens de la préfecture se demandaient mais où se trouve l'Ourbarousse ? Ils savaient pas que, enfin, c'était quand même assez loin de Tarbes. Et bon. Là, maintenant, ça a évolué quand même, hein. Bon, notamment puisqu'on a eu un conseiller général qui s'appelait François Fortassin, qui était un Barousset convaincu et qui a été également président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées.
Voilà, mais ça passe aussi ça passe par les élus aussi, cette connaissance du territoire. Merci beaucoup Jean-Michel Palao, merci pour cet accueil et cette découverte donc de l'Ourbarousse. Vraiment, on invite les auditeurs de Radio Présence à venir se promener dans cette vallée.
On a donc un événement un petit peu qui revient chaque année, et c'est la fameuse foire au fromage. Donc,
voilà, le fromage c'est quand même important.
Le premier week-end d'août, où effectivement donc on se retrouve dans un marché artisanal et avec des fromages de Barousse et tous les produits locaux.
Voilà, donc ça c'est le premier week-end d'août et ça se passe ici à l'Ourbarousse, en centre du village, dans le bourg.
Non, ça se situe du côté du stade, voilà.
Bon, il faut venir à l'Ourbarousse, et puis il y a aussi des randonnées, des promenades en vélo, enfin vraiment des forêts magnifiques.
Voilà, donc dans le cadre d'ailleurs du retour du train, là, on va mettre en place au niveau de la gare, de l'ancienne gare, un PEM. Alors c'est un sacré mot, mais c'est un pôle d'échange multimodal où les gens pourront, à partir de la gare, récupérer des vélos électriques et aller se balader en Barousse ou à Saint-Martin-de-Comminges ou dans les Frontignes. Enfin, voilà. Donc, on se prépare un petit peu à ce développement économique et faire de l'arrivée du train un outil de développement. Voilà. Donc, beaucoup de projets en tête.
Beaucoup de projets au service à la fois des habitants pour leur confort au quotidien et puis aussi pour les personnes de passage et les touristes. Voilà, c'est un petit peu ça qui résume l'actualité de l'Ourbarousse. Merci beaucoup Jean-Michel Palao, et donc à bientôt à l'Ourbarousse.
Et voilà pour cette interview réalisée par Anne-Rose Jankovic. Je ne saurais trop vous inviter à aller visiter et passer du bon temps dans ce joli coin des Hautes-Pyrénées.
Why have a song if you ain't gonna sing? Make a move, do your thing.
for afternoon. I'm putting my foot down and swing my thing back around and play my favorite tune. The greedy gonna dance, free your mind, take a chance. What are you doing just hanging around? Shake your head, go downtown. I'm putting my foot down and swing my thing back around. Play my favorite tune.
C'était Heartbeat sur Présence.
Présence à Montrégeau, 94.1.
Et tous les vendredis, Catherine Albrecht vous propose une chronique littéraire mettant en avant un écrivain qui a écrit sur notre belle région de l'Occitanie. Aujourd'hui, c'est Pierre Loti.
L'Occitanie, un doux nom qui a inspiré nombre d'écrivains célèbres depuis des siècles. Séduit par ses paysages, son art de vivre, son histoire, ses habitants. Écoutez, voyagez, rêvez, vibrez, admirez, aujourd'hui avec Pierre Loti. Pierre Loti, écrivain et officier de marine né à Rochefort dans les Charentes-Maritimes, a poursuivi toute sa vie une double carrière militaire et littéraire. Comme son frère adoré Gustave, médecin de marine disparu prématurément, il intégra l'école navale et entama un long parcours d'officier qui le conduisit pendant plus de 40 ans sur toutes les mers du globe. Ses escales dans des civilisations exotiques lui fournissent alors les thèmes de ses romans, souvent autobiographiques. Ici, il évoque sa première escale, bien loin de la mer. Alors jeune adolescent, il passa durant 4 étés ses vacances chez un oncle à Bretenoux dans le Lot, au pied de la forteresse médiévale de Castelnau. Castelnau, c'est un nom ancien qui évoque pour moi des images de soleil, de lumière pure sur des hauteurs, de calme mélancolique dans des ruines, de recueillement devant des splendeurs mortes ensevelies depuis des siècles. Sur une des montagnes boisées environnantes, ce vieux château de Castelnau était perché, découpant en l'air l'amas rougeâtre de ses terrasses, de ses remparts, de ses tours et de ses tourelles. Du jardin de mon oncle, on le voyait, passant sa tête lointaine au-dessus des murs d'enceinte. C'était du reste le point marquant dans tout le pays d'alentour, la chose qu'on regardait malgré soi de partout. Cette dentelure de pierre de couleur de sanguine émergeant d'un fouillis d'arbres. Cette ruine posée en couronne sur un piédestal garni d'une belle verdure de châtaigniers et de chênes. Or, c'était précisément une coutume d'été dans la famille de mon oncle de s'y rendre deux ou trois fois par mois pour dîner et passer la journée chez le propriétaire, un vieux prêtre qui habitait là-haut un pavillon confortable accroché au flanc des ruines. Il y avait fête et féerie pour moi ces jours-là. Toujours très longs, les dîners que donnait ce bon vieux prêtre. Souvent même, c'était des bombances méridionales auxquelles plusieurs des notables de la région étaient conviés. 10 ou 15 plats se succédaient, accompagnés des fruits les plus dorés, les plus beaux, et des vins les plus choisis parmi ceux que la contrée produisait si abondamment en ces temps-là. On restait à table plusieurs heures d'affilée par les chaudes après-midi d'août ou de septembre. Et moi, seul enfant dans la compagnie, je ne tenais pas en place, troublée surtout par le voisinage écrasant de ce château. Dès le second service, je demandais la permission de m'en aller. Une vieille servante sortait alors avec moi et venait m'ouvrir la porte des murailles féodales de Castelnau. Puis elle me confiait les clés de ces immenses ruines et je m'y enfonçais seule, avec une délicieuse crainte par un chemin déjà familier, franchissant des portes à pont-levis, des remparts qui se superposaient. Oh, les moments de rêve que j'y ai passés. D'abord, je faisais le tour des terrasses, surplombant l'abîme des bois vus par en dessus. Des étendues infinies se déroulaient de tous côtés. Des rivières traçaient çà et là, sur les lointains, des lacets d'argent. Et à travers l'atmosphère limpide de l'été, mes yeux plongeaient jusque dans les provinces voisines. À travers le regard et les mots de Pierre Loti, inspirés par notre belle Occitanie, nous avons pu apprécier son talent et son émerveillement devant ce beau patrimoine. Merci à Jean-Paul Azam pour son anthologie littéraire illustrée intitulée « Mots et merveilles d'Occitanie » inspirant tous mes récits.
Voilà, cette émission Présence Midi se termine sur l'air de Alain Souchon avec cette chanson de Foule Sentimentale. À toutes et à tous, je vous souhaite une très très belle journée à l'écoute des programmes de présence, sans omettre de vous rappeler l'heure de la prière à 15h30 avec le chapelet qui est médité en direct depuis la grotte des sanctuaires de Lourdes. Un chapelet médité pour toutes vos intentions. À toutes et à tous, très très belle journée, très bon week-end. Mais restez au frais, il va faire chaud.
Que le bonheur c'est d'avoir, de l'avoir plein nos armoires, dérision de nous dérisoire. On a soif d'idéal, attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Foule sentimentale, il faut voir comment. Sans aucun avantage, on nous inflige des désirs qui nous affligent. On nous prend, faut pas déconner, déconner, né, pour des cons alors qu'on est. Une foule sentimentale avec soif d'idéal, par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Foule sentimentale, il faut voir comment on nous parle,
nuages à la moquette du ciel.
Présence à Pamiers, 100.2.
Radio Vatican,
le journal.
Le journal.
Le plan d'occupation par Israël de la bande de Gaza suscite une pluie de condamnations internationales. L'ONU et de nombreuses chancelleries demandent à Benjamin Netanyahu.